Alors peut-être que certains... Bonjour à tous, déjà, excusez-moi, avant de commencer. Première chose, bonjour. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, attendaient avec hâte les ventilateurs et les éventails. Mais alors, que faites-vous? C'est la question que je vous pose pour commencer ce message. Que faites-vous quand vous attendez avec hâte un moment, et en particulier un moment réjouissant? Quelques exemples, un anniversaire en famille, un temps de partage avec les frères et sœurs à l'église, une promenade, une randonnée avec un bon ami, un temps privilégié avec votre conjoint, si vous êtes marié. Il faut reconnaître qu'il est souvent très excitant de préparer de tels moments. Nous y mettons toute notre énergie parce que nous voulons que tout se passe au mieux. Et quoi de plus triste, en revanche, quoi de plus triste que d'attendre de tels moments en étant blasé, déprimé, en craignant que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, ou pire, que le moment en question n'arrive pas. Pour travailler quotidiennement avec des personnes qui préparent leurs vacances dans notre région, je peux vous assurer qu'une telle perspective est souvent synonyme d'un grand stress, paradoxalement, voire parfois d'une réelle panique, en particulier par rapport aux imprévus. Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce que le meublé de tourisme que j'ai loué sera conforme à ce que j'ai vu sur Airbnb? Et puis au fond, est-ce que ça vaut vraiment le coup, le luxe? La réponse à cette question, c'est oui. Alors, dans le texte biblique que nous allons lire ce matin, il va être question d'attente, justement. Il va être question de préparation. Non pas de nos prochaines vacances, ça je vous laisse le soin de préparer ça chacun chez vous, si vous avez la chance, en tout cas, de préparer des vacances, mais pour un jour bien plus beau, bien plus exceptionnel. Et, il faut bien le dire, pour certains en tout cas, bien plus terrible. Vous l'avez deviné, c'est du retour du Seigneur dont il va être question dans le texte du jour. Et sinon, je vais compter sur Charles. Passer les diapos, ça me passe. Nous allons voir ce qu'implique le fait de vivre ici-bas, dans l'attente de ce jour. Et en quoi Dieu, loin d'être en retard, ou de mentir, comme certains le prétendent, est en réalité patient. Car dans ce passage, il va aussi être question, oui, du jugement divin. Ce sont des sujets dont on ne parle pas souvent en Église, mais ce sont des sujets qui se trouvent dans la parole de Dieu et nous ne voulons pas les éviter. Donc nous allons en parler ce matin. Nous considérerons dans ce texte à la fois un appel, un avertissement, mais aussi un chemin à suivre. Un rappel, un avertissement, un chemin à suivre, vous l'avez compris, ce sera les trois parties du message. Nous permettrons donc de comprendre ce qu'implique le fait de vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième épître de Pierre, donc en 2 Pierre, au chapitre 3, et au verset 1. Si vous avez une Bible avec vous, et j'espère que c'est le cas, je vous invite donc à l'ouvrir. Et si vous utilisez ces Bibles-là, donc les Bibles de la version second 21 dans laquelle je vais lire, c'est à la page 804. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1. Bien-aimé, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs, plein de raillerie, Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. » De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservé pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. La lecture du texte biblique s'arrête là. Alors les premiers mots de l'apôtre Pierre dans ce texte nous renseignent à la fois sur son intention et sur son objectif. On ne sait pas précisément à qui est adressée la lettre de Pierre, mais vraisemblablement c'était à des églises d'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est l'actuelle Turquie. En revanche, si on ne sait pas précisément les destinataires, on sait pourquoi il leur écrit. Cette lettre, tout comme la première, est envoyé à ces chrétiens pour les affermir dans la foi en Jésus et dans la connaissance de la parole de Dieu. Pierre fait appel au souvenir des chrétiens et il les encourage à se rappeler des Écritures. Verset 2, rappelez-vous. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Pierre mentionne toutes les Écritures. N'est-ce pas ? Vous avez remarqué ? Pas seulement l'Ancien Testament, on aurait pu imaginer que pour un chrétien du 1er siècle, il se réfère seulement à l'Ancien Testament, mais non, déjà, à cette époque-là, Pierre mentionne les écrits des prophètes, mais aussi les évangiles, l'encommandement du Seigneur, et les épîtres, donc celles qui étaient déjà rédigées en tout cas, les écritures donc des apôtres, l'enseignement des apôtres. Et donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui ne s'appelaient pas encore comme ça, et qui étaient en train de prendre forme. Ça n'était pas évident pour tout le monde à l'époque, car la diffusion de l'Évangile en était encore à ses débuts, et le fondement de l'enseignement biblique était en train d'être posé par les apôtres. Ça, c'est très important, parce que ça explique aussi le chapitre précédent, que nous n'avons pas lu, mais que je vous invite à lire un peu plus tard, dans lequel l'apôtre met en garde. Et c'est un autre objectif de la lettre de Pierre. Il met en garde les croyants contre de faux enseignants, des hommes qui prétendent parler de la part de Dieu, mais qui en réalité enseignent des choses fausses. En effet, on le sait, la nature a horreur du vide, Il était donc relativement facile, à cette époque-là, pour des hommes mal intentionnés de séduire les chrétiens avec de faux enseignements. Mais Pierre, ce que veut Pierre, c'est que les chrétiens soient affermis dans la vérité, et non dans l'erreur ou le mensonge. Pour nous, ça paraît évident, parce que nous possédons depuis de nombreux siècles la Bible dans son intégralité. La rédaction de la Bible est terminée et nous croyons, en tout cas nous le croyons dans cette Église, que tout ce que Dieu a jugé bon de nous transmettre pour notre vie chrétienne se trouve dedans. Toutefois, il faut reconnaître aussi que nous ne sommes pas meilleurs que les chrétiens du 1er siècle. Et nous devons nous aussi veiller à ne pas nous laisser séduire par des enseignements plaisants en apparence, mais qui en réalité n'ont pas de fondement biblique. Le fondement, c'est Christ, que nous pouvons connaître au moyen de la parole écrite de Dieu et avec l'aide indispensable du Saint-Esprit que Christ nous a laissé après être monté au ciel et avoir rejoint le Père. Alors tenons fermement dans ce fondement. Tâchons de nous en souvenir. Relisons les textes. Cherchons à les comprendre, à les interpréter de la bonne manière. Et examinons les enseignements que nous recevons à la lumière de ce qui est écrit dans le livre. S'il se trouve quelque chose que nous ne comprenons pas dans la Bible, et ça arrive très souvent, c'est normal. Demandons à Dieu de nous éclairer. Demandons à Dieu de nous aider à comprendre. Tournons-nous vers un bon enseignant, un enseignant fidèle, reconnu comme tel, en particulier par l'Église. Et tenons ferme, mes amis, c'est important, c'est indispensable. Tenons ferme dans la connaissance de la parole. C'est important d'insister là-dessus, de là d'une part parce que Pierre le fait au début du chapitre, mais c'est important au regard du chapitre qui précède et surtout au regard de ce qui suit dans le texte. Donc là, je vais passer maintenant au deuxième point. Malheureusement, les faux enseignants ne sont pas les seules personnes à s'égarer et à chercher à égarer le peuple de Dieu. Dans les versets qui suivent, donc vous avez vu, hein, à partir du verset 3, Pierre mentionne une autre catégorie de personnes qu'il nomme des moqueurs. Ces personnes se moquent, donc ils raillent la foi chrétienne et ils vivent selon leurs désirs. Ils semblent être satisfaits par les plaisirs que ce monde offre. Ils sont à la fois pleins de sarcasme et sceptiques quant à la personne de Christ. Et en particulier donc à propos de son retour, retour que Christ a promis. « Je viens bientôt », nous dit le Seigneur en Jean. Après tout, là je me mets à la place des moqueurs, j'essaie de me mettre dans leur état d'esprit. Si tout ce qui compte, c'est la satisfaction de mes désirs, et si je peux trouver ça ici-bas, dans ce monde, pourquoi ? Pourquoi attendre un éventuel, je dis éventuel, puisque c'est certainement ce qu'ils pensent, un éventuel retour de Christ ? Si tout ce que je peux trouver, tout ce qui me plaît, tout ce qui me comble en apparence est ici-bas, pourquoi attendre le retour de Christ ? Mais ça n'est pas tout, malheureusement. En plus de ça, en plus de moquer la foi chrétienne, ces personnes ne veulent pas comprendre l'histoire biblique. Ils ne font pas attention à ce qui se passe dans la Bible et à ce que Dieu révèle dans la Bible. Et en particulier, ils ne pensent pas au fait que Dieu a déjà jugé ce monde d'une certaine façon et à une occasion bien précise. L'apôtre Pierre en parle. On verra ça juste après. Peut-être pensent-ils pouvoir échapper à cette réalité d'un jugement en la niant. En français, il y a une expression qu'on utilise pour ça, on appelle ça « faire l'autruche ». Quelle folie ! Ça fait penser à un enfant qui essaierait de se cacher à la suite d'une bêtise, pensant ainsi échapper à la punition de ses parents. Nous l'ont tous fait, ça, n'est-ce pas ? Ça peut aussi faire penser à un homme et une femme qui chercheraient à se cacher après avoir douté de la parole de Dieu et finalement désobéi. Dieu a-t-il vraiment dit ? Genèse 3, souvenons-nous. L'apôtre Pierre lance un avertissement solennel à ces personnes, mais aussi aux chrétiens destinataires de sa lettre. De la même manière que le monde a été détruit par l'eau au moment du déluge, c'est donc à cet événement que fait référence l'apôtre, Genèse 6, le monde actuel sera détruit par le feu au retour de Christ. Faire l'autruche ou se moquer de la Bible, de la foi chrétienne, n'y changera rien du tout. Lorsque Dieu le Père aura décidé de mettre un terme aux agissements des hommes, tel un juge ou un arbitre, la sentence tombera. Christ reviendra, il prendra les siens avec lui et le monde sera jugé avec force. Je vous renvoie notamment à Matthieu 24, où le Seigneur Jésus lui-même donne une description assez terrible des événements qui se produiront à ce moment-là. Et quel espoir d'en réchapper. Alors, quel espoir d'en réchapper. À ce moment-là, il n'y aura plus d'espoir pour ceux qui sont perdus. Et ce que l'apôtre Pierre nous rappelle aussi dans sa lettre, c'est que ce jour n'est pas arrivé. Le jour du jugement n'est pas encore là. Et ce que les moqueurs prennent pour un retard de la part de Dieu, voire pour un mensonge, c'est en réalité un temps de patience. La patience de Dieu. Dieu n'a pas du tout la même perception du temps que les hommes, que nous. C'est ce que l'apôtre veut dire quand il cite au verset 8 le psaume 90, cette expression bien connue, qui est une citation du psaume 90, « 1000 ans sont comme un jour est comme 1000 ans pour Dieu ». Bien sûr, cette expression n'est pas à prendre de manière littérale, évidemment. C'est un langage imagé, mais qui souligne le fait que Dieu, en tant que créateur, ne perçoit pas le temps de la même manière que nous. Et s'il nous semble à nous que le temps est parfois long, depuis que le Seigneur est monté au ciel, à l'ascension, Dieu, c'est pas pareil. Dieu n'est pas en retard. Dieu ne ment pas. Il patiente. Attention cependant à ne pas limiter la patience de Dieu à un simple sursis, un peu comme un condamné qui serait condamné avec sursis et à la moindre incartade, hop, en prison. C'est bien plus que ça, la patience de Dieu. Dans sa compassion pour des moqueurs qui ne le méritent pas, Dieu a prévu une solution pour que ces mêmes moqueurs puissent échapper à son juste jugement en se repentant. Dieu a envoyé son propre Fils sur terre, Jésus-Christ, afin qu'il donne sa vie, qu'il subisse la colère de Dieu, qu'il meure, qu'il ressuscite, pour que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient en lui, soient sauvés et échappent à la condamnation. Si tu ne crois pas encore cela, considère ces versets de la Bible. Considère la patience de Dieu à ton égard. Repens-toi et crois. Quand viendra le jour du Seigneur, quand viendra le jour du jugement, auquel aucun homme ne pourra échapper à nouveau, que plaideras-tu pour ta défense ? Tes bonnes actions ? Mais souviens-toi qu'une seule faute suffit à être privé de la sainte présence de Dieu. Souvenons-nous, le jardin d'Éden, Adam et Ève, une seule faute, un seul péché. Et la présence de Dieu n'est plus là. Bien sûr, Dieu est là, mais nous ne pouvons plus bénéficier de sa présence. Et cette faute-là, elle te disqualifie déjà. Tu l'as déjà faite. Paul, dans sa présidence, a mentionné les personnes qui essaieraient de filouter peut-être pour aller voir une célébrité, Madame Kardashian ou autre. Peut-être que certains arrivent à filouter pour entrer dans la présence de Madame Kardashian, mais pour Dieu, il n'y a pas moyen de filouter. Mes amis, c'est impossible. Impossible. Le seul moyen, et la seule chose que nous pourrons plaider au jour du jugement, c'est Christ. Christ. Et nous le ferons avec assurance. Amen. C'est Christ que nous plaiderons. Ce même Jésus qui reviendra à la fin des temps pour juger le monde, c'est lui qui nous sauve aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour son plan merveilleux. Et merci Seigneur pour ta compassion et ta patience envers nous. Alors, si tu ne crois pas, encore, ne prends pas la parole de Dieu à la légère. Repens-toi et crois, si ça n'est pas déjà fait. Je vais citer un autre texte biblique pour appuyer cette idée d'une repentance aujourd'hui, et de la nécessité d'une repentance aujourd'hui. En 2 Corinthiens, au chapitre 6, donc l'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième, au chapitre 6, les versets 1 et 2, l'apôtre Paul dit: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, citation de l'Ancien Testament, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. » Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici, maintenant, aujourd'hui, le moment favorable et le jour du salut. Ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Alors ça, ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat, c'est se repentir et croire. Mais la grâce de Dieu nous oblige aussi à renoncer, une fois qu'on a cru, à toutes les mauvaises actions que nous commettions auparavant. De la même manière qu'un condamné gracié va veiller à ne plus commettre les mêmes fautes qui l'ont emmené en prison la première fois, le chrétien doit veiller à ne plus commettre les mêmes fautes qu'avant sa conversion. Il doit suivre un chemin différent. La perspective du retour de Christ et du jugement qui s'en suivra doit nous booster à ce sujet. Vraiment. C'est en tout cas ce que dit Pierre. Des versets 11 à 14, l'apôtre nous donne de nouvelles indications sur ce qu'est une vie vécue dans l'attente du retour de Christ. Et il reviendra. Ce sont des choses assez concrètes qui nous montrent que cette attente n'a rien d'une attente passive. Ce n'est pas la salle d'attente du dentiste, ou n'importe quelle autre salle d'attente d'ailleurs, hein, où on se tourne un peu les pouces et où on attend son tour. Non, attendre le retour de Christ, c'est une attente active. Et les versets 11 au verset 14, on le voit en plusieurs points. Je vais mentionner trois points avant de conclure le message qui soulignent cela. Premièrement, une vie vécue dans l'attente du retour de Christ implique une relation avec Dieu forte et entretenue. C'est ce que veut dire avoir une grande piété. Combien votre piété doit être grande. Notre piété, c'est un mot important, la piété. C'est un mot un peu daté, un peu ancien, qu'on n'emploie pas tous les jours, mais c'est la manière dont nous vivons notre foi chrétienne au quotidien. C'est ce que nous faisons pour entretenir notre relation avec Dieu, puisque nous avons une relation filiale avec notre Dieu. Du coup, c'est ce que ne font pas les moqueurs, qui ne croient pas et qui vivent leur vie indépendamment de Dieu, comme si Dieu n'existait pas. Mais nous devons, au contraire, rechercher la présence du Seigneur, chercher à mieux le connaître, en se remémorant la parole, en cherchant à bien la comprendre, cf. Les versets 1 et 2 qu'on a lus au début, et en priant, bien sûr, seul ou avec nos frères et sœurs. C'est aussi se placer dans une attitude de dépendance totale vis-à-vis de Dieu pour nos besoins matériels et spirituels. Toutes ces choses, ces disciplines spirituelles, comme on les appelle parfois, on ne les fait pas simplement pour les faire, en tout cas on ne veut pas les faire simplement pour les faire. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'aborder la vie chrétienne sous cet angle. Mais on les fait pour tenir ferme, pour connaître Dieu et pour tenir ferme jusqu'au retour du Seigneur. Et il reviendra. Premier point, donc. Une vie vécue dans l'attente du retour de Christ implique aussi, c'est le même verset, le verset 11, de veiller à sa conduite. Combien votre conduite doit être sainte. De la même manière qu'un condamné gracié va veiller à ne plus commettre les actes qui l'ont envoyé en prison, le chrétien veille à ne plus commettre les péchés qui le condamnaient avant que Christ ne lui fasse grâce. Et qu'il saisisse, le chrétien, du coup, cette grâce par la foi. Il s'agit d'être conséquent et de ne pas prendre à la légère la grâce de Dieu par laquelle nous avons connu le salut. Et là, je vais citer un autre texte de l'apôtre Paul en Tite. Alors, on a commencé une série sur l'épître de Paul à Tite dans les groupes de partage. On a vu le chapitre 1 la semaine dernière. Nous verrons le chapitre 2 dans 15 jours. Tite 2, justement, au verset 11 à 14. Tite 2, 11 à 14, en effet, un de mes passages préférés de la Bible. Honnêtement, je le trouve formidable. J'ai eu du mal à le comprendre pendant longtemps, mais il est formidable. Tite 2, 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice, la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Waouh ! Enfin, on considère, je pense que parfois on a vraiment une vision étriquée de la grâce de Dieu. On pense grâce égale pardon des péchés. Et oui, c'est ça, bien sûr. Et merci Seigneur, il pardonne nos péchés, qu'il les a oubliés. Mais ce que ce texte nous dit, c'est que cette grâce de Dieu, c'est un don, c'est un cadeau, mais elle nous enseigne aussi. Elle nous enseigne à renoncer à une vie qui déshonore Dieu. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Notre salut dépend de Dieu et uniquement de Dieu, qui nous a pardonné en Jésus-Christ. Il ne dépend jamais de nos efforts. Il faut le dire et le souligner. Toutefois, cette grâce doit avoir un effet transformateur et purificateur dans nos vies. Il y a des péchés qui persistent dans nos vies et dont il nous appartient de nous séparer pour la gloire de Dieu et avec son aide. C'est à chacun de nous de s'examiner par rapport à ça, de prier pour ça et de faire ce qu'il faut pour lutter contre ça. Oui, il y a une lutte, il y a un combat. Tite 2, verset 12. Là aussi, ce combat peut ou doit être mené en Église. Est-ce que vous avez déjà envisagé de mener cette lutte avec un frère, avec une sœur, dont vous vous sentez proche? Ensemble, cela permet d'affronter les choses de manière unie. L'objectif est majeur, c'est mettre à mort ce qui ne plaît pas à Dieu dans nos vies et être rendu conforme à l'image de Christ, dans l'attente de son retour. Et il reviendra. Et nous ne nous contentons pas de nous débarrasser du péché, mais remplaçons nos mauvaises pensées par de bonnes pensées, nos mauvaises paroles par de bonnes paroles, nos mauvaises actions par de bonnes actions. Et tout ceci sera à la seule gloire de Dieu. Je relis le verset 14 de 2 Pierre 3, donc c'est pourquoi, bien aimé, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Troisième et dernier point, donc de cette dernière partie, qui nous montre ce qu'implique une vie, donc de passer dans l'attente du retour de Christ. Une vie vécue dans l'attente du retour de Christ implique une espérance qui dépasse de loin notre vie terrestre, de très loin notre vie terrestre. Pierre indique que Dieu nous a promis un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 13. Pourquoi la justice y habitera ? Eh bien parce que Jésus, il sera le roi incontesté. Mais elle y habitera aussi parce que toute injustice aura disparu. J'espère que cela vous encourage, chers frères et sœurs, ce matin, de considérer le retour de Christ aussi sous cet angle. Toute injustice aura alors disparu. Si nous constatons beaucoup d'injustices et beaucoup de souffrances ici-bas, et elles sont innombrables, elles sont partout, il n'y a qu'à sortir de chez soi pour les voir. Peut-être même qu'elles sont chez nous, les souffrances, parfois, malheureusement. Mais que cela nous encourage, un jour, tout ça prendra fin. Dans le monde à venir. Et quel contraste avec le jugement de Dieu que connaîtront les impies. Dans le monde à venir, tout ceci, les souffrances, l'injustice, aura enfin disparu. C'est la promesse de Dieu. C'est notre espérance chrétienne. Alors je vais conclure. J'arrive au terme du message. Que retenir ? Que retenir de 2 Pierre 3, 1 à 14 ? Eh bien, ce passage est un bel encouragement à vivre dans l'attente du retour de notre Seigneur. C'est un encouragement à tenir ferme dans la foi, sur la base de la parole révélée de Dieu, c'est-à-dire la Bible. C'est un encouragement à ne pas négliger la grâce de Dieu, à se tenir prêt dans la repentance, la foi et la sainteté. C'est un encouragement à ne pas céder aux sirènes de ce monde qui courent à sa perte. Ne l'oublions pas. Mais Dieu est patient. Et Jésus reviendra. Dernière citation, et je termine là-dessus. Apocalypse, chapitre 22, tout à la fin de vos Bibles. Pas très difficile à trouver dans la Bible, c'est à la fin. Dernière page. Les versets 12 à 17. C'est Christ qui parle. Voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prennent gratuitement. Verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je vous invite à prier. Dieu et Père, nous nous inclinons devant toi avec reconnaissance pour ta patience, pour ta grâce, sans lesquelles, Seigneur, notre rassemblement même ce matin n'aurait aucun sens. Aucun sens. Mais Seigneur, parce que tu as eu compassion de nous, parce que ta compassion à notre égard a été plus grande que ta colère, tu nous as sauvés. Tu as envoyé Christ, notre substitut, celui qui a pris à notre place nos fautes, nos péchés, à la croix. Et tu nous as sauvés. Nous ne pouvions rien faire, Seigneur, pour accéder à ta sainte présence. Mais Christ a tout fait pour nous. Merci, Seigneur, pour ta patience. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que nous qui croyons, tu nous as fait grâce et tu as fait en sorte que nous ne recevions pas cette grâce en vain. Tu as suscité la foi dans nos cœurs et nous sommes reconnaissants pour cela. Te prions, Seigneur, pour les personnes qui nous entourent en particulier, qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas reçu cela. Ô Père, je te prie de les attirer à toi, de les convaincre de leurs péchés. Je te prie, Père Céleste, de tout mon cœur, de les amener à la repentance et à considérer ce que tu leur dis dans ta parole. Considérer les avertissements que tu donnes dans ta parole. Père, attire-les à toi, sauve-les, s'il te plaît. Que ce soit par notre intermédiaire ou par ton action directe, sauve-les. Merci Seigneur pour ta promesse de ton retour. Aide-nous à ne pas rester passifs, Seigneur, dans cette attente. Nous voulons vivre une vie pieuse, mieux te connaître, toujours plus t'aimer, Seigneur, et toujours plus comprendre ton amour pour nous. Toujours plus comprendre tes plans pour nos vies. Nous voulons mener une vie sainte. Seigneur, nos péchés, chaque jour, nous les voyons et parfois ils nous accablent. Mais aide-nous, Seigneur, à progresser pour ta gloire et en t'attendant. Seigneur, nous gardons cette espérance dans notre cœur, cette espérance de ton retour. Merci parce qu'elle est vraie. Merci parce qu'elle est irrévocable. Et nous l'attendons. Seigneur, nous prions de bénir nos cœurs avec cette espérance, s'il te plaît. C'est en ton nom que je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen.